Jean-Philippe Boulanger. Peut-on traiter les troubles de la personnalité avec nos traitements pharmacologiques ? Jean-Philippe Boulanger est professeur de psychiatrie à l'Université de Montpellier, vous le savez bien entendu. Et il est également depuis quelques semaines le responsable du pôle de psychiatrie au CHU.
Lourde responsabilité. Merci Philippe, merci aux organisateurs de la réunion de m'avoir invité à répondre à cette question. Dans les troubles de la personnalité, les médicaments, qu'en attendre ? Vous allez voir que c'est une question complexe et pour laquelle on n'a pas obligatoirement de réponse toute faite. Alors, simplement, je n'ai pas dû appuyer sur le bon bouton. Non. Ah, voilà. Je vous montre les conflits d'intérêts potentiels. C'est à vous de juger si oui ou non. Ce que je dirais prouve qu'il y a des conflits d'intérêts. Ce sont mes liens avec l'industrie qui sont liés en partie à mes fonctions auprès de, dans les groupes de travail de la commission d'AMM. Mais avant de faire la revue, dans le fond, de la littérature, vous allez voir une littérature qui est quand même relativement limitée sur l'efficacité des psychotropes dans les troubles de la personnalité. Je voulais juste rappeler deux, trois éléments qu'on peut presque dire historiques et qui montrent qu'avant qu'il y ait ces grands essais randomisés, il y a déjà eu une réflexion pour voir si les médicaments qu'on a depuis les années 1950 ne sont pas actifs au travers d'une action sur certains traits de personnalité et non pas sur des syndromes. On en discutait à midi avec le docteur Billet. Il y a d'abord toute cette lignée de travaux qui, parallèlement aux travaux qui ont été faits dans la dépression, montrent que les antidépresseurs sont efficaces dans un certain nombre de troubles anxieux et même dans l'ensemble pratiquement des troubles anxieux, sauf peut-être les phobies simples, ce qui fait que il y a une quinzaine d'années, Peter Tyrer, en Angleterre, avait émis l'hypothèse que c'était peut-être plus des effets qu'il appelait antinévrotiques que ces médicaments possédaient, plutôt qu'un effet sur tel ou tel syndrome. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un point commun qui explique l'activité de ces antidépresseurs, d'ailleurs à la fois dans la dépression, à la fois dans les troubles anxieux, et puis, ne l'oublions pas aussi, à la fois dans la douleur. Une autre dimension qui a été explorée, là aussi, dans le sillage des essais cliniques avec les antidépresseurs, et en particulier les IMAO. Vous savez que les IMAO, c'est sélectif ou non sélectif, sont efficaces dans les états dépressifs majeurs et sont particulièrement efficaces dans les états dépressifs atypiques, c'est-à-dire ceux qui ont une symptomatologie inverse de celle qu'on s'attend à voir dans un état dépressif majeur. Ce qu'ont montré les études au travers d'analyses factorielles, c'est qu'il y avait dans cette efficacité une dimension qui réagissait particulièrement bien et que vous voyez ici et qui est la sensibilité au rejet. Ce qui avait donné l'idée d'utiliser ensuite ces médicaments chez des patients qu'on avait appelés des gens qui avaient des dysphories stéroïdes. En fait, le concept n'a pas tenu le coup avec les années. Et c'était des patients qui, à la fois, présentaient des éléments de dépression atypique, à la fois une réactivité accrue aux éléments, aux événements environnementaux, et des traits de personnalité qui ressemblent grandement aux traits de personnalité borderline. Et là-dedans, on avait montré aussi une efficacité des IMAO, ce qui avait cette même dimension d'activité sur la sensibilité au rejet, ce qui avait également donné l'idée de les essayer dans la phobie sociale. Et vous savez que dans la phobie sociale, les IMAO ont prouvé leur efficacité, peut-être même leur supériorité, par rapport aux antidépresseurs plus classiques. Et puis, dernière note historique, lorsqu'on a commencé justement à étudier les effets des psychotropes dans le cadre d'essais randomisés chez les patients borderline, on a relativement vite arrêté, c'était dans les années 80, parce qu'on s'est rendu compte que les benzodiazépines augmentaient hein, l'agressivité de ces patients. Il y avait une augmentation dans ces groupes particuliers de patients de ce qu'on appelle les effets paradoxaux. Et il y a d'autres travaux qui d'ailleurs utilisent plus récents, qui d'ailleurs utilisent un petit peu les tests que Fabrice Jolland nous a montrés ce matin et qui prouvent qu'au moins chez certaines personnes particulièrement vulnérables, dont les personnes souffrant de troubles borderline, il peut y avoir une désinhibition, une augmentation de l'agressivité lors de la prescription des benzodiazépines. Voilà, alors j'arrêterai là avec ces considérations historiques, mais simplement pour vous faire remarquer que cette réflexion sur des dimensions des traits de personnalité existe déjà depuis un certain temps. Alors, qu'en est-il des indications, des psychotropes dans les troubles de personnalité? Il n'y a pas d'indication officielle pour aucun psychotrope en France ou aux États-Unis dans le traitement des troubles de la personnalité. Si vous regardez sur cette diapositive un certain nombre de recommandations récentes, dont celle d'ailleurs très bien faite de la Fédération mondiale des sociétés de psychiatrie biologique, qui dit qu'à l'exception de la phobie sociale, on va y revenir dans une minute, il n'y a pas d'indication officielle pour l'utilisation des psychotropes dans les troubles de la personnalité. Les guidelines de l'APA, les recommandations d'usage pratique, disent aussi que l'utilisation des psychotropes comme traitement symptomatique est acceptable, mais comme traitement symptomatique d'appoint des psychothérapies. Et il y a également une revue Cochrane. Vous savez, le système Cochrane, c'est cette association britannique qui fait des grandes méta-analyses de tous les essais cliniques existants, réalisés naturellement avec une méthodologie suffisante, et qui dit que là aussi, il n'y a pas de preuve véritable d'efficacité. Alors, on pourrait éventuellement s'arrêter là et puis commencer la discussion. Mais bon, je voudrais qu'on pousse un petit peu la réflexion plus avant. D'abord, pour essayer de comprendre pourquoi il n'y a pas d'indication AMM, et quand même, quelle est l'utilité, quelle peut être pour ces patients, parce qu'il y en a une, l'utilité de certains traitements psychotropes. Il y a une revue récente, là aussi, qui fait un petit peu le point, qui est d'ailleurs une dans un journal de psychologie, mais c'est une revue qui est très très bien faite. Il y a eu l'année dernière, par la même équipe, une revue de toutes les psychothérapies. Alors là, je vais parler principalement des travaux qui sont faits chez les borderline. Et cette année, la même équipe a donc fait le même travail de compilation sur l'utilisation des psychotropes. Et vous voyez que si on regarde dans l'ensemble de la littérature jusqu'à maintenant, il y a simplement 35 essais cliniques contrôlés contre placebo dans les troubles de la personnalité, dont la grande majorité dans le trouble de personnalité borderline. Celle qui vient en second, c'est les troubles de la personnalité antisociale. Et ce que relève cette revue, c'est qu'en général, et c'est une des raisons pour laquelle il n'y a pas pour le moment d'AMM, ce sont des essais qui sont réalisés sur un petit nombre de patients et vraiment sur des périodes courtes. Et je crois que là, on peut soulever le problème. Si on traite un trouble de personnalité, normalement, on devrait s'attendre ou à des effets très progressifs ou en tout cas à des effets qui vont se développer progressivement dans le temps, puisqu'on voudrait modifier une structure de personnalité qui, par définition, est stable. Alors, vous savez qu'on peut classer, on classe maintenant, avec l'evidence-based medicine, un certain nombre de résultats scientifiques en fonction de leurs preuves, des preuves scientifiques qui sont apportées. La meilleure classification, c'est A. A, ça voudrait dire qu'un résultat est appuyé par des études bien faites, suffisamment nombreuses, suffisamment validées par d'autres études, puisque, en général, un essai clinique positif ne veut pas dire grand-chose. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité en psychopharmacologie ces dernières années, mais on s'était beaucoup excité il y a 4, 5 ans, 6 ans peut-être, sur un antagoniste des récepteurs NK2, l'aprépitant, grand article dans Nature, aussi bon que les antidépresseurs existants. La firme, je ne m'en rappelle plus laquelle, je crois que c'était Pfizer, investit. On refait d'autres essais cliniques, un deuxième négatif, un troisième négatif, un quatrième négatif. Alors, un essai clinique ne suffit pas à emporter la conviction des autorités, de la même façon qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, obligatoirement. Alors, les autres niveaux, alors C, c'est le niveau le plus mauvais, c'est-à-dire c'est éventuellement l'avis d'un certain nombre d'experts, et les autres sont des niveaux intermédiaires. Alors vous voyez que pour les différents diagnostics, personnalité borderline, les antidépresseurs niveau B, il y a un certain nombre d'essais cliniques positifs qui montrent leur efficacité. On va voir sur quelle cible thérapeutique, mais qui sont soit pas suffisamment longs, soit avec un nombre restreint de patients, soit pas obligatoirement vérifiés par la suite dans la littérature. Les neuroleptiques atypiques, également niveau B, ce qui est déjà un bon niveau d'évidence, même si ce n'est pas le meilleur, mais vous comprendrez que les autorités d'enregistrement veulent avoir quand même des certitudes avant de donner des AMM. Et les thymorégulateurs et anticonvulsivants, pour le moment, niveau C. La personnalité schizotypique, nettement moins, très très peu d'essais, mais enfin quand même un certain nombre d'évidences en faveur de l'efficacité des neuroleptiques atypiques, moins des neuroleptiques typiques à faible dose. Et puis là où c'est le mieux démontré, c'est pour la personnalité évitante. Pourquoi ? Parce que vous savez que dans le DSM-4, on dit que dans la phobie sociale, dans sa forme généralisée, il n'y a pas de différence entre ce type de phobie sociale et la personnalité évitante. Et il est évident que dans cette indication-là, on a de nombreux essais positifs avec les antidépresseurs ISRS ou mixtes, d'où le niveau A et d'où l'indication de ces médicaments dans la phobie sociale. Alors, bien entendu, on en a déjà parlé. Pourquoi ces difficultés ? Naturellement, la première, c'est celle de la définition et de l'évaluation des symptômes cibles et des syndromes. Et moi, j'ai beaucoup aimé la remarque que Julien Daniel Guelfi nous a fait ce matin sur la relativité de nos classifications. Je crois qu'il faut toujours garder un recul par rapport à ça, et c'est particulièrement le cas, je pense, pour les troubles de personnalité. En plus, mais alors ça, la plupart d'entre vous qui s'occupent de ces patients savent que ce n'est pas obligatoirement les patients les plus compliants, et il y a donc de très nombreuses sorties d'essais. C'est à peu près comme dans la schizophrénie. Vous savez que dans les essais cliniques, dans la schizophrénie, c'est rare qu'il y ait plus que 50 ou 60% des patients qui terminent l'essai clinique. Ben, c'est à peu près la même chose avec les patients qui ont des troubles de personnalité borderline. Un des autres problèmes, c'est qu'il y a une grande variabilité chez ces patients dans l'évolution de leurs symptômes, parce que là aussi, par définition, leurs traits de personnalité les rendent vulnérables, d'ailleurs, dans un sens ou dans l'autre, aux événements extérieurs, ce qui fait que ça augmente la variabilité de la symptomatologie négative, mais également ça augmente l'effet placebo dans des groupes de ce genre. Les durées d'évaluation, et puis alors surtout le gros problème, c'est celui de la comorbidité. Et là, lorsque ça a été le cas, par exemple, lorsqu'on a eu à évaluer les effets des antidépresseurs dans le PTSD, c'est évident que si les gens qui rentrent dans les essais sont déprimés et qui sont améliorés par un traitement antidépresseur, il n'y a pas besoin de donner une autre indication, puisqu'ils sont déprimés, on donne un antidépresseur et ils s'améliorent. Donc on ne peut pas avoir à la fois l'indication pour le PTSD et pour la dépression. Pour par exemple, dans cet exemple-là, avoir l'indication pour le PTSD, il faudrait prendre une population non déprimée et prouver que le médicament a une action spécifique en dehors de son action antidépressive. Le problème est encore pire pour les troubles borderline. Vous voyez les résultats de cette étude, quand même, comme les font maintenant les Américains, sur presque 35 000 personnes de la population générale. Étude qui montre, alors je pense que ça a surpris beaucoup de monde, en tout cas moi je n'étais pas très familier de cette littérature, mais une prévalence importante des troubles de personnalité borderline sur la vie entière, vous voyez, 5,9%. Avec un ratio homme-femme qui est à peu près égal, et une prévalence qui est inversement corrélée à l'âge. C'est-à-dire que c'est plutôt de bon pronostic, ça veut dire que ça s'arrange en vieillissant, mais on le sait déjà, d'autres troubles de la personnalité, ça s'arrange spontanément. Mais regardez par contre les taux de comorbidité dans ce type de population. 50% des gens qui ont ce diagnostic ont des problèmes de substances, d'abus de drogue, etc. 50% ont des troubles de l'humeur, dont un certain nombre, et puis naturellement, c'est l'objet de recherches à l'heure actuelle, ont des troubles bipolaires. une proportion encore plus grande à des troubles anxieux. Et je ne parle pas de ceux qui, en plus de leurs troubles de personnalité, ont plusieurs de ces troubles. Donc vous voyez la complexité du problème lorsqu'on cherche à montrer de façon relativement rigoureuse une efficacité sur ce qui serait vraiment des traits de personnalité pathologique. Alors, il y a quand même, malgré tout, une large utilisation de ces médicaments qui est reconnue, mais qui est reconnue simplement dans le cadre d'un traitement symptomatique. Et si on relit en particulier les guidelines de l'APA, de l'Association américaine de psychiatrie, il y a des équipes qui déjà depuis de nombreuses années s'intéressent à cette pathologie-là. Alors là, c'est borderline au sens du DSM que décrivait ce matin Julien Guelfi. Il mentionne dans le fond trois cibles thérapeutiques qu'il individualise. C'est l'équipe de Soloff. La première, c'est celle du déséquilibre émotionnel. Alors là-dedans rentrent là aussi tout un tas de symptômes qu'on retrouve chez ces patients. La labilité de l'humeur, la sensibilité au rejet dont je vous parlais tout à l'heure, les colères inappropriées. On pourrait mettre aussi ce que Angst et puis Montgomery ont décrit il y a quelques années comme des dépressions récurrentes brèves, c'est-à-dire que ce sont des dépressions très intenses, très souvent subites, mais qui ne remplissent jamais le critère diagnostique de durée pour parler d'un état dépressif majeur. Ça a beaucoup excité les cliniciens qui ont essayé de montrer justement, il y a une quinzaine d'années, s'il y avait des médicaments qui pouvaient avoir un rôle préventif, mais malheureusement, il n'y a pas eu d'essais qui soient très concluants dans ce sens. Deuxième dimension, celle de l'impulsivité. Alors avec l'agressivité, disons plutôt comportementale, c'est là-dedans qu'on met également les automutilations, les tentatives de suicide, les conduites à risque, etc. Et puis, troisième dimension, qu'on retrouve quand même de façon non exceptionnelle dans ces populations, c'est tout ce qui est des symptômes psychotiques. Et vous savez qu'en Amérique du Nord, on parle même de micropsychose pour décrire ces symptômes psychotiques transitoires, souvent critiqués, que peuvent éventuellement présenter ces patients. Alors, ça serait fastidieux de faire une revue. En tout cas, pour chacun, je vais peut-être revenir sur la précédente, parce que pour chacune de ces dimensions, on ne peut pas dire qu'on ait une grande littérature. Et puis, il y a des essais cliniques qui ont été faits avec finalement des critères d'efficacité globale et qui ensuite, simplement, secondairement, ont regardé comment ces dimensions se modifiaient. Il faut voir aussi qu'il y a un recouvrement très important par rapport entre les deux premières. La colère, l'agressivité, bon, c'est des concepts qui sont relativement proches. Et vous allez voir que, dans le fond, c'est ce que dit d'ailleurs la revue que je vous ai citée au début, c'est que tous les médicaments qui ont été efficaces ont au moins été efficaces une fois sur une des dimensions, quelle que soit leur catégorie. Alors néanmoins, si on regarde les symptômes de déséquilibre émotionnel, ce qui revient en premier lieu comme psychotrope efficace, ce sont les antidépresseurs, et en particulier les antidépresseurs ISRS, mais également les antidépresseurs mixtes, noradrénergiques, sérotoninergiques. En deuxième lieu, avec quand même des preuves, on ne l'a vu pas négligeable, B, les neuroleptiques atypiques, qu'on peut soit utiliser seul, éventuellement en deuxième attention, soit pour potentialiser l'activité d'un antidépresseur qui n'aurait pas eu suffisamment d'effet. Ce que l'on voit aussi, mais beaucoup moins d'essais, quelques essais plutôt rares, alors les thymorégulateurs. Alors il faut s'entendre là-dessus parce que c'est comme diagnostic des bipolaires, il y a une espèce d'inflation de médicaments qu'on appelle thymorégulateurs. Bon, à tort ou à raison, ce n'est pas le lieu d'en discuter, mais ce qui est clair, c'est que, vous serez d'accord avec moi, ce n'est pas vraiment des populations à qui il faut donner du lithium, du fait quand même des risques que les patients pourraient courir lors d'une intoxication. La carbamazépine, il y a un ou deux essais qui étaient négatifs. Donc si on parle de thymorégulateurs, c'est essentiellement valproate, valpromide, etc., puisque ces trois molécules sont très proches l'une de l'autre. Et puis ce qui vient, et semble-t-il avec des résultats intéressants, ce sont les anticonvulsivants de type topiramate, lamotrigine, qui même sur cet aspect de déséquilibre émotionnel dans lequel on peut mettre les variations de l'humeur, semble avoir un certain degré d'efficacité. Et puis, alors c'est dans les guidelines, mais là aussi, avec des problèmes, à mon avis, de toxicité en cas de tentative d'autolyse, des IMAO, qui dans les premiers essais s'était montré très efficace. Mais enfin, nous, on n'en a plus qu'un. Il n'y a plus maintenant que le moclobémine. On va retrouver pratiquement le même profil pour les symptômes d'impulsivité. Ce qui revient, c'est qu'il s'est souvent amélioré par les antidépresseurs ISRS. Et là, bon, on sait qu'il y a quand même toute une littérature scientifique chez l'animal qui montre que le système sérotoninergique est impliqué dans les conduites impulsives, c'est-à-dire dans l'impossibilité de pouvoir différer une conduite. Là aussi, on retrouve bien entendu les neuroleptiques, alors classiques, mais maintenant plutôt certainement les neuroleptiques atypiques, et puis les thymorégulateurs, auxquels j'aurais dû ajouter, comme tout à l'heure aussi, les anticonvulsivants, parce que si, encore une fois, topiramate, lamotrigine, s'il y a une dimension symptomatique sur laquelle ils sont souvent efficaces, c'est celle de la colère, qu'elle soit purement subjective ou qu'elle s'exprime au niveau du comportement. Et puis, vous ne serez pas surpris, pour la dimension cognitive ou perceptuelle, les neuroleptiques atypiques, voire les neuroleptiques classiques, mais dans les essais où ils ont été utilisés, ils étaient utilisés à des doses plus faibles, avec là aussi, alors naturellement, dans les cas difficiles, la possibilité de l'associer aux ISRS. Il y a quelques essais aussi ouverts, dans les cas très réfractaires, d'utilisation de la clozapine. Donc il y a une littérature, puisque vous savez que dans les hôpitaux, il va y avoir un moment où si on ne prescrit pas en fonction de l'AMM, ça sera à l'hôpital de payer les médicaments, à moins qu'on puisse prouver qu'il y a des indications scientifiques ou qu'il y a au moins une littérature qui est en faveur de l'utilisation de ces médicaments. Bon, en psychiatrie, ça ne va peut-être pas nous arriver tout de suite. Je ne sais pas, Pierre Petit nous le dira peut-être, parce que les médicaments qu'on utilise ne sont pas parmi les plus chers, mais enfin, c'est quand même une tendance. Je ne sais pas, est-ce que j'ai encore du temps? Oui. Bon, parce que je voulais simplement parcourir avec vous très brièvement deux, trois études qui me semblent intéressantes parce qu'elles ont été faites dans des conditions un petit peu particulières. Alors, d'abord, je vais vous montrer deux études qui ont été faites ou dans lesquelles les psychotropes ont été ajoutés à une psychothérapie. Alors, la psychothérapie de référence pour le moment, dans les troubles borderline, c'est les thérapies cognitives dialectiques de Linehan. Alors, vous voyez que c'est un essai dans lequel on a fait alors, la thérapie avec ou sans fluoxétine à dose de 40 mg. Vous voyez que c'est un petit échantillon, et que dans les deux groupes, naturellement, les gens se sont améliorés, mais qu'ils se sont autant améliorés qu'il y ait ou non, et encore une fois sur une période réduite de 3 mois, de la fluoxétine. Donc l'ajout de la fluoxétine à la psychothérapie n'avait rien apporté. Par contre, même type d'essai, cette fois-ci avec l'olanzapine, un groupe de patients un peu plus important, toujours un temps limité de 3 semaines. Là, il y a un effet additionnel, mais modeste. Et vous verrez que c'est toujours ça dans les essais cliniques qui rapportent quand même une certaine efficacité symptomatique. C'est toujours des effets modestes, c'est-à-dire que c'est statistiquement significatif, mais ça ne transforme pas radicalement le patient, comme on peut le voir, par exemple, de temps en temps, dans les états dépressifs majeurs. Et puis, avec une tendance, mais non significative, avec ce neuroleptique atypique, à la diminution des comportements auto-agressifs. Donc, j'ai aussi individualisé cette étude-là, parce que bien qu'elle soit relativement courte, elle a essayé de voir qu'est-ce que donnait un psychotrope, ici la fluoxétine, chez des patients qui n'avaient pas de comorbidité. En d'autres termes, en quoi les traits de personnalité peuvent être modifiés en l'absence ou de troubles anxieux ou de troubles dépressifs, comme on en voit souvent associés. Alors là aussi, un petit nombre de patients, ils avaient pas c'était des gens plutôt fonctionnels, mais enfin qui fonctionnaient avec ces caractéristiques de personnalité dont on a parlé. Et là, vous voyez, mes 3 semaines, c'est probablement un temps, enfin 3 mois plutôt, c'est probablement un temps trop limité pour voir des modifications au niveau de traits de personnalité, mais quand même une amélioration modeste qui, vous voyez, porte à la fois sur plusieurs des dimensions que j'évoquais tout à l'heure, la colère, la dépression, sans qu'il y ait d'ailleurs de corrélation entre l'effet sur les items de dépression et ceux de colère, et puis aussi sur le fonctionnement global. Naturellement, tout ça, c'est à mettre en perspective avec d'autres études qui, avec d'autres produits, ont été négatives. Les seules études à vraiment long terme dont on dispose, c'est celle-ci avec l'olanzapine qui a été faite sur une durée de 6 mois. Là aussi, on a essayé de prendre dans cet essai, vous voyez toujours un nombre réduit, mais des gens sans comorbidité dépressive, et en général sans comorbidité addictive aussi. Là aussi, une amélioration sur certains items, une amélioration encore modeste, mais sur la sensibilité interpersonnelle, l'anxiété, colère, hostilité, et vous voyez même certains items qui étaient dans cette catégorie des symptômes psychotiques, des symptômes cibles de type psychotique. Et le fonctionnement global, naturellement, du fait de cette amélioration, se trouve aussi modifié. Il y a un essai, d'ailleurs, un petit peu dans le même genre qui a été fait, mais sur une période moins longue, puisque aux États-Unis, je crois qu'ils ont commercialisé un médicament où étaient associés la fluoxétine et l'olanzapine. Donc, pour prouver que c'est utile, il faut le comparer à chacun des produits utilisés seuls. Eh bien, dans cette indication, l'association de fluoxétine à l'olanzapine n'apportait rien. Là, par contre, l'olanzapine était plus efficace chez ces patients-là que la fluoxétine. Mais l'association des deux n'apportait aucun avantage. Et dernière, alors ça c'est une étude relativement récente avec la lamotrigine, dont je vous ai dit que comme les anticonvulsivants avaient probablement un effet privilégié sur la dimension de colère, d'irritabilité, là ça a été donné quand même pendant 18 mois, il y a eu un essai clinique comparatif en aigu et ensuite un suivi de 18 mois. Alors, il y a des effets statistiquement sur cette dimension de colère-agressivité, telle que mesurée par cette échelle. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est le fait que, dans le fond, le groupe traité ait eu une très bonne compliance par rapport à ce qu'on voit dans la plupart des essais. Vous voyez que sous traitement, il y a 14 des 18 patients qui sont allés jusqu'à la fin des 18 mois, alors que je vous ai dit que déjà au bout de 3 mois, on en perdait 50%, alors que dans le groupe, ici placebo, il n'y a eu que 3 patients sur 9 qui ont pu aller jusqu'au bout. Donc, je pense que c'est un critère naturellement très indirect, mais qui n'est pas inintéressant. Bon, alors il y a eu un certain nombre d'autres essais thérapeutiques, je passe rapidement, parce que bon, c'est insuffisant pour se faire une idée, mais les acides gras oméga-3, la clonidine, le catapressant, qui est un antihypertenseur, l'analtrexone, avec une efficacité sur les expériences dissociatives, et naturellement les benzodiazépines, mais en général avec cet inconvénient que je vous signalais tout à l'heure. Voilà. Alors je crois qu'en conclusion, premièrement, je crois que s'il y a des comorbidités, bien entendu, il faut d'abord les traiter. S'il y a un état dépressif, on traite l'état dépressif. Un état de dépendance, on traite l'état de dépendance. Je crois qu'il ne faut pas essayer de tout faire à la fois. Parce que, en tout cas, moi, je préconiserais plutôt, comme d'ailleurs dans la plupart des troubles chroniques, une stratégie séquentielle. Parce que si, dès les premiers mois de prise en charge, ils ont des neuroleptiques, des antidépresseurs, des benzodiazépines et des anticonvulsivants, dans 3 ans, je ne sais pas qu'est-ce que vous pourrez faire avec ces patients-là. Et je crois que c'est beaucoup plus instructif pour nous, notre façon de prendre en charge ces patients, d'utiliser les médicaments les uns après les autres. En sachant quand même que dans les cas de comorbidité, par exemple de la dépression, il ne faut pas s'attendre à une efficacité identique à celle qu'on obtient chez les gens qui ont des dépressions non comorbides. Tous les cas de comorbidité sont en fait un facteur de résistance au moins partiel au traitement. Ensuite, en ce qui concerne le trouble lui-même, je crois que là, hostilité, impulsivité, instabilité émotionnelle, je crois ISRS, anticonvulsivant, éventuellement, dans un deuxième temps, des neuroleptiques atypiques, et par contre, des neuroleptiques atypiques en première intention pour ces symptômes psychotiques. Alors ça, c'est à court terme. À long terme, je crois que là, alors c'est ouvert aux recherches. Naturellement, on en a beaucoup parlé depuis ce matin. Les approches dimensionnelles, je crois que ça, c'est vraiment une voie d'avenir. D'ailleurs, on nous a donné ce matin des mal. Il faut avoir un diagnostic qui réponde à des critères internationaux. Donc, développer naturellement des moyens d'évaluation adéquats. Préciser la place des psychotropes par rapport à celle des prises en charge psychothérapiques. Ça, je crois que c'est vraiment très, très général pour l'ensemble des troubles qu'on a à traiter. Mais je crois qu'il y a quand même des voies en ce moment qui se développent. Là, je vous disais au début, toutes ces recherches sur les antidépresseurs. Par exemple, je crois que là, à la fois avec des données chez les volontaires sains, des données aussi chez les patients, on pense de plus en plus que les antidépresseurs, dans le fond, qu'est-ce que c'est leur mode d'action? Le primum movens de leur mode d'action, c'est probablement, c'est peut-être, plutôt parce qu'il faut être prudent, de modifier le traitement, la façon dont sont traités les stimuli qui ont des valences émotionnelles négatives. C'est-à-dire que l'impact émotionnel de ces stimuli négatifs serait atténué par le traitement antidépresseur, ce qui permet éventuellement de comprendre que ce soit à la fois efficace sur des émotions de type dépressive, anxieuse ou éventuellement douloureuse, puisque c'est aussi une indication de ces médicaments. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour ce panorama complet et très pertinent qui nous montre les difficultés de conceptualisation des troubles de la personnalité, puisque si l'on a du mal à utiliser des catégories diagnostiques, ce sont elles qui nous incitent à traiter, mais qu'ensuite on traite des dimensions uniquement. Et en même temps, c'est un peu ce qu'on fait en permanence. C'est un peu un modèle, finalement, pour l'ensemble des affections que nous sommes amenés à traiter. Et je remarque que tu as souligné la place de la lamotrigine, qui malheureusement n'a pas d'indication psychiatrique en France, malgré pas mal d'arguments en faveur de son efficacité dans le trouble bipolaire et également dans ses états d'instabilité émotionnelle et affective. Je